On a parlé la dernière fois de la prière, de la forme de la prière, et on avait, pour le dire très rapidement, ce qu'on avait vu, c'est qu'en réalité, ça correspond à un mouvement général dans le monde, dans la création, mais que dans la demande, correspond à un certain désir, le désir de celui qui demande, ce n'est pas d'obtenir seulement le résultat, mais il veut obtenir que celui qui doit lui donner le résultat, donc en fait, dans le cas de la prière, c'est Hachem, il veut obtenir qu'Hachem veuille le lui donner, pas simplement qu'il réponde à la demande, c'est-à-dire que c'est pas simplement un résultat qui est recherché, mais ce qui est recherché, c'est un désir, qu'Hachem désire lui donner. Évidemment, Hachem n'a pas des désirs comme les êtres humains, et donc, un peu comme dans la tfila, quand on dit, après avoir fait toutes nos demandes, presque à la fin, on dit « retse », on demande à Hachem « veuille ». C'est-à-dire pas simplement « accède à nos demandes », mais « veuille nous donner ce que nous demandons ». Quelque part, on voudrait obtenir que l'autre ne donne pas seulement en réponse à ma demande, mais qu'il le donne comme quelque chose qu'il a envie de donner. Donc il s'agit de le toucher, si on peut parler comme si ça n'était pas un Hachem, on pourrait dire, il s'agit de le toucher beaucoup plus profondément, parce qu'on veut fabriquer sa volonté. Et on peut dire, si on veut le dire en deux mots, que prier, c'est fabriquer la volonté d'Hachem. On va passer maintenant, puisqu'on parle de Rosh Hashanah, on parle en Elul, il y a un moment fondamental en Elul, qui est un moment de préparation, une préparation pas tellement à Rosh Hashanah, dans la prière effectivement à Rosh Hashanah, on va demander la vie, si on veut, mais on avait déjà vu les autres années que le paradoxe, si vous voulez, de Rosh Hashanah, c'est que c'est un jour de jugement, mais qu'on ne prononce pas du tout le mot « faute ». On ne demande pas pardon pour les fautes. Il n'y a pas de vidouille, il n'y a pas de confession à Rosh Hashanah. Au point qu'on s'était demandé, mais comment est-ce que Rosh Hashanah peut faire partie des Aseret Yemei Tshuva, des 10 jours de Tshuva, puisque dans la Tshuva, le mouvement fondamental de la Tshuva, c'est le vidouï, c'est une confession. C'est une confession qui est entre l'être humain et Hachem. C'est pas du tout une confession publique, c'est pas une confession devant quelqu'un, devant un rabbin, devant un responsable, etc. C'est une confession de l'homme qui se tient devant Hachem. Alors, se tenir devant Hachem, c'est, d'après Raim de Brisk, c'est la prière. Qu'est-ce que c'est prier? C'est se tenir devant Hachem, dans un état de manque, conscient de cet état de manque. On pourrait le dire de la manière suivante, on pourrait dire, l'être humain est responsable du fonctionnement du monde. Il est responsable d'un fonctionnement du monde qui mène à la reconnaissance de ce que c'est Hachem qui guide le monde. Il est responsable du fonctionnement. Et donc, dans la Amida, dans la Shmoneh Esrei, il va demander tout ce qui est nécessaire au fonctionnement du monde. Mais c'est un responsable d'un genre un peu particulier, parce qu'il est responsable, mais il ne peut pas du tout faire ce pourquoi il est responsable. Ce qui fait que sa responsabilité, ça consiste à se tourner vers celui qui, lui, peut faire ce dont le monde a besoin et que le responsable, c'est-à-dire l'homme, réclame. Il le lui réclame, il le réclame à Hachem, parce qu'il en est responsable, mais il ne peut pas le faire tout seul. Alors il se tourne vers Hachem, et on comprend ainsi pourquoi la prière est à l'impératif. Parce que c'est le responsable qui parle à un exécutant, à quelqu'un qui est capable de faire la chose, mais un exécutant. Alors on a ce paradoxe, c'est qu'on se tient devant Hachem qui est tout puissant, et on lui parle comme si il devait nous obéir. Quand on parle à l'impératif, on donne des ordres. Alors, effectivement, on se tient devant Hachem dans cet état de manque, et dans le processus de tshuva, il y a la mitzvah. Concrètement, qu'est-ce que c'est faire tshuva? Concrètement, ça implique trois choses, comme vous savez bien. Ça implique des choses sur le passé, sur le présent et sur le futur. C'est-à-dire, on se tient devant Hachem, on dit voilà, j'ai fait telle et telle faute dans le passé. Et je la regrette. Si je pouvais, je l'effacerais, mais je ne peux pas moi-même de l'effacer. Et aujourd'hui, dans le présent, le fait de savoir que j'ai fait cette faute, ça me fait honte. J'ai honte de l'avoir faite. Ça, c'est dans le présent. Et par rapport au futur, je prends des mesures pour que les choses ne se reproduisent pas. C'est-à-dire, évidemment, il faut analyser le pourquoi la chose a eu lieu, pourquoi j'ai fait cette faute, comment je suis arrivé. Et les barrières, bien sûr, il faut les mettre en amont. Il faut prendre des mesures pour qu'on ne se retrouve pas dans la situation qui mène à la faute. Parce qu'il y a un moment où on est quasiment à nous, on ne peut pas se retenir. Parce que c'était avant qu'il fallait veiller à ne pas se trouver dans cette situation. Et donc, le moment où on fait ce travail sur le passé, le présent et le futur, c'est ce qu'on appelle le vidouï. C'est la confession. Alors, ce qui est surprenant, c'est que le vidou, il est construit comme une prière, bien que ce ne soit pas une prière. Le vidou, il commence par « Anna ». C'est une supplication, en fait. On dit « Anna Bachem », comme le Kohen Gadol, qui lui fait le trois vidouim le jour de Kippour, un vidouï pour lui-même, un jour vidouï pour les Kohanim, et un vidouï pour le reste du clan Israël. Alors, effectivement, bonsoir, au temps du Bet HaMikdash, la journée de Kippour était une journée qui tournait bien sûr autour du problème de vidouille, mais c'était fait par le Kohen Gadol. Tout était fait pour nous. D'une certaine manière, les gens n'avaient pas besoin de le faire. C'était fait par le Kohen Gadol. Il courait toute la journée, le Kohen Gadol, toute la partie, donc, tout ce qu'il faisait, il le faisait au pas de course, en fait. Et c'est lui qui faisait le vidouille. Dans la tefila de Moussaf, nous, on raconte comment ça se passait, et on dit comment, ce qu'il faisait, les aspersions de sang qu'il faisait, etc. Et chaque fois, le vidouille qu'il faisait, Ana Hashem, Ana Bashem, il disait Khatati, Aviti, ou bien les Kohanim, au nom des Kohanim, Khatanu, ou bien au lion du peuple juif tout entier, Khatanu. Khata a amasé, ce peuple a fauté, alors pardonne-lui. Donc c'est une bakasha, c'est une demande, donc c'est une prière. Et le Rambam dans les Rotshuva, il dit « vidouille », ce vidouille-là qu'on doit faire quand quelqu'un veut faire tshuva, « mitzvah tassé », c'est une mitzvah positive. « Aketsad mitvadim », comment est-ce qu'on fait vidouille? Omer, il dit « Ana Hashem, s'il te plaît, Hashem, je te supplie, je t'en supplie. Khatati, aviti, pashati, ces trois niveaux de faute. Ça va crescendo, du moins grave au plus grave. Chet, avon, pesha, lefanecha, côté devant toi. Ve'asiti, kach ve'kach. Et j'ai fait cette chose-là. J'ai dit du Lachonara, ou j'ai... Ve'are, et voici, nichamti, je regrette, sur le passé. Ou voshti, et j'ai honte, maintenant, dans le futur, dans le présent, de ma asai, de mes actes. Ou le olam, eini choser le davarze. Et je n'y reviendrai plus jamais. Et il dit, Zeu Ikaro shel vidui, c'est ça l'essentiel du vidui. Et donc, on a deux questions, si on peut parler comme ça. Première question, pourquoi est-ce que le vidui, pourquoi est-ce que la tshuva, donc, se présente sous forme d'une prière? Si c'était une demande de kapara, une demande de pardon, comme on le fait dans la prière, slach lano, kaper lano, ça, cette partie-là, c'est bien sûr, c'est une demande. Pardonne-nous, efface la faute pour nous. D'accord, on comprend là, là c'est une prière. Mais on voit bien que le Rambam dit, qu'est-ce que c'est l'essentiel du vidouille? C'est pas du tout pardonne, on demande pas pardon. C'est j'avoue ma faute, c'est tout. J'avoue ma faute, je la regrette, j'en ai honte, et je prends des mesures pour que ça n'arrive plus. Alors pourquoi commencer par une bakasha? J'ai rien demandé. Je ne demande rien. Dans le vidou du Kohen Gadol Yom Kippour, il dit Kaperna, mais le Ana Hashem, Khatati, il est à part. Il y a Kaperna, là on comprend. Kaperna, s'il te plaît, pardonne. Efface la faute. Ou Ana Bashem, Kaperna, d'abord Ana Bashem. Prière. Pourquoi? Vous pouvez essayer d'expliquer ça comme ça. Jusque-là, on a parlé d'une prière dans laquelle on demande ce dont on a besoin, ce dont le monde a besoin. On a besoin qu'Hachem nous donne une parnassa, on a besoin qu'il nous donne refoua shlema, on a besoin qu'il nous donne, qu'il aide les tzadikim à se maintenir, etc. Mais ici, la prière, puisque prière il y a, la prière, c'est pas une demande de satisfaction de nos besoins. Mais vous vous souvenez, je les rapporte, enfin, vous vous souvenez où je viens de le rapporter, le Prêtre m'avait expliqué que l'essentiel dans la prière, c'est le fait de se tenir devant Hachem, ou Omed Lifnei Hachem. Certains appellent la prière la Amida, le fait de se tenir debout. Intuitivement, on aurait dit dans la prière, c'est parler, demander. Mais vous voyez bien que le nom qui a été donné, ça n'est pas parler ou demander. On appelle ça Amida, c'est-à-dire se tenir debout. Donc ça, c'est ce côté-là, le fait de se tenir debout devant Hachem, qui est la prière. Cette partie-là de la prière, c'est celle-là qui est là dans le vidouille. Quand on dit que le vidouille, il a une dimension de prière, une dimension de prière parce que je me tiens devant Hachem. Et je me tiens, comme on a dit, je me tiens avec mes manques. Les fautes que j'ai faites sont des manques. Khatati, j'ai fauté, c'est une expression de dire je suis en manque. Dans le Sefer Melachim, David HaMelech dit si se passait, les choses se passaient de cette manière-là, Vaïti ani ou beni shlomo chataim. Alors nous serions, je serais, moi et mon fils Shlomo, chataim. Rashi dit, qu'est-ce qu'il traduit chataim? Chaserim. Manquant. En état de manque. C'est ça le Hana. Nous désirons, qu'est-ce qu'on désire? Puisque la prière c'est un désir, l'expression d'un désir. Nous désirons combler ce manque. Se tenir devant Hachem, par lui-même, c'est déjà, enfin, dans un état de manque, c'est déjà une demande de combler le manque. Donc ça n'a pas besoin d'être exprimé plus avant. Et c'est ça la tchouva. C'est-à-dire mettre le manque, le défaut, en situation de désir de combler ce manque. Sauf que, si vous voulez, la différence avec la prière au sens habituel du terme, la prière où il y a, comme d'autres disent, c'est les 18 bénédictions qui, comme chacun sait, sont 19, mais essentiellement 18. Dans une bracha, on parle, on demande, c'est que cette bracha, elle s'applique à une situation précise. Je demande qu'Hachem développe, bénisse mon intelligence, bénisse ma santé, qu'il bénisse, enfin, c'est toujours pluriel, hein, notre intelligence, notre santé, notre Parnassa, la paix, etc. Pourquoi est-ce qu'on demande? On demande qu'il y ait bracha, et vous vous souvenez ce qu'on avait dit, enfin je répète ce qu'on avait dit la dernière fois, on demande qu'il y ait bracha, parce que s'il n'y a pas de bracha, c'est déjà klala, vous vous souvenez? Il n'y a pas de troisième terme. La neutralité n'existe pas. S'il n'y a pas de bracha, alors on est dans un état de klala. Donc pour éviter qu'il y ait la klala, notre demande, c'est une demande dans laquelle on demande bracha. Parce qu'on ne peut pas se contenter de la situation où il n'y aurait pas de bracha, parce qu'il n'y a pas de bracha, mais pas de klala non plus, ça n'existe pas. Il n'y a pas trois temps, il n'y a pas bracha neutre. Et klala, il y a seulement bracha, et si c'est absence de bracha, c'est klala. Donc dans la prière ordinaire, on demande la bracha pour qu'il n'y ait pas de klala, en fait. Mais dans la tshuva, on va demander la bracha, mais on demande une bracha qui va venir se placer au-dessus d'une situation de klala déjà existante, puisqu'on a fait la faute. Donc on veut que cette bracha vienne et répare la situation, en fait. Elle vient sur une situation, non pas pour éviter la klala, mais pour enlever la klala. Alors, on trouve quelque chose d'un peu semblable. Vous savez bien que si on regarde la journée de Kippour, qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce qu'on fait à Kippour? Je ne parle pas de jeûner, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait à Kippour? Vous avez l'impression, vous allez à la synagogue à Kippour, qu'est-ce qui vous frappe? Si quelque chose vous frappe. Qu'est-ce qui est frappant?
On est debout tout le temps.
Ah non?
On est debout tout le temps.
On est souvent debout, mais on est debout, si on voulait, si c'était nécessaire, on pourrait s'asseoir la plupart du temps. Mais. Pardon?
24 heures de prière.
24 heures de prière, mais il y a beaucoup de prières, oui, c'est vrai, mais quelque chose d'un peu plus précis. Pardon? Quelque chose de bien précis que. On peut le décrire, on peut dire ce que c'est.
Les téléphones, ça revient.
Le?
Il y a les téléphones, ça revient, c'est en boucle. Il y a plusieurs vagues, en fait. C'est comme des. Ça monte et à chaque fois.
Alors, bon, c'est presque ça. Ce qu'on répète tout le temps, c'est les Shlosh Esrei Midot. Parce que les Slichot, c'est des poèmes. Si vous voulez, qu'ils nous mettent en situation de pouvoir dire les 13 midot de Rachamim. On n'arrête pas de répéter Hachem, Hachem, Kehel, Rachum, Vechanun, etc. Toutes les slichot autour, elles sont là pour nous monter jusqu'à ce moment où on va dire ces Shlosh Esrei Midot. Dans le Moussar Sfarad de la prière, on le dit, dans Yom Kippour, on le dit 26 fois. 26 fois en moins de 26 fois en 24 heures. Quoi. Donc, si vous voulez, c'est vraiment un truc énorme. Les Ashkenazim, ils le disent peut-être aussi autant, mais ils n'ont pas compté. Et donc, c'est quoi c'est quoi ce Hashem Hashem, Kel Rahul, le Hanoul, etc. Alors, peut-être vous vous souvenez de ce que, après la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu a cassé les louchot, comme vous savez. Il avait cassé les louchot, et il est remonté sur le Sinaï pour implorer Hachem de redonner les louchot. Et finalement, il va réussir. Est-ce qu'Hachem nous donne les deuxièmes luchot? Mais Hachem a donné non seulement les deuxièmes tables, mais il a donné aussi deux autres choses. Il nous a donné un autre nom divin, ou si vous préférez, une nouvelle occurrence du tétragramme, Hachem. Vous entendez, dans Hachem, dans les Shloshet Remidot, on dit Hachem, Hachem, Kel, Rachum, Vechanun. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi on bégaye et on dit deux fois Hachem? Bon, il y a un deuxième nom divin qui nous est donné. Ce nom divin-là, il est donné après la faute. Ça fait partie des choses, c'est comme les deuxièmes luchot, si vous voulez. Mais qu'est-ce qu'il a de spécifique, ce nom-là, qui est finalement le même? De même que les luchot sont les mêmes luchot, si vous voulez, ou si vous préférez, Hachem a écrit sur les deuxièmes luchot la même chose que ce qu'il avait écrit sur les premières. Ben, le deuxième Shem Hachem, c'est aussi le même. Hachem, c'est le tétragramme. Les Chazal disent, le premier Hachem, c'est Kodem Achet, avant la faute, et le deuxième, c'est après la faute. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un Shem d'avant la faute et un Shem d'après la faute? Le Shem Hachem, le tétragramme, une des lectures qu'on peut en faire, c'est Haya, Ove, Viye, Hachem est à tous les temps de passé, présent, futur, Veu Mehave et Akol. Et il fait tout en sorte que tout existe. Donc, si lui n'était pas là, rien n'existerait. Donc, il fait exister. Alors, faire exister est Kodem Achet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem a fait exister le monde et il a mis une limite qui est Avodah Zarah. Puisque le monde a été créé pour que les hommes reconnaissent Hachem dans le monde, alors dès lors qu'on s'adonne à la Avodah Zarah, au lieu de que ce soit une Avodat Hachem, un service d'Hachem, on fait un service pour autre chose, Zar, ça veut simplement dire étranger. Du coup, on n'a plus de raison de vivre. Le monde, il a été créé pour une Avodat Hachem, et voilà que les hommes font Avodat Zara. Ok, terminus. C'est ce qui s'est passé, c'est Hachem a dit, il a dit à Moshe, laisse-moi, je vais détruire ce peuple. J'en termine avec lui. Et quand Hachem a accédé à la demande de Moshe a supplié, il savait comment il fallait demander, il a demandé, et il a obtenu que Hachem ne détruise pas Klal Israël. Mais le Shem Hachem qui avait été donné, c'est un Shem Hachem qui ne permettait pas de vivre au-delà de la faute. Si vous voulez, quand Hachem a dit « je vais détruire le peuple », ce n'est pas une nouveauté. C'est simplement la suite de ce que le nom d'Hachem avec lequel le monde a été créé, ce nom-là a créé un monde qui va jusque-là. Ça ne va pas plus loin que la faute. La faute, à Bolazara. Et donc, il a fallu donner un autre nom divin. Mais il n'y en a pas 10, il y en a 36 noms divins. Donc c'est le même, mais celui-là, il a été donné dans une situation où on avait fauté, donc c'est un Shem Hachem qui n'est pas limité. C'est un Shem fait exister sans limite. C'est fini, il n'y a plus cette limite, si vous faites Avodah Zarah, vous êtes mort. Non. Si on fait Avodah Zarah, Hachem peut pardonner, etc. Donc il a donné et deuxième luchot, mais aussi un deuxième nom divin. Et puis, il a dit à Moshe Rabbeinu, la prière, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que c'est que cet homme qui ne fait pas ce qu'Hachem demande, et tu viens me demander la vie. C'est quoi ça? C'est débile. J'aime te dire, voilà la règle du jeu, tu ne respectes pas la règle, et tu viens demander la vie. Alors Hachem a dû donner à Moshe Rabbeinu un autre moyen de prier. Une prière qui pourrait se faire même quand on a fauté. Alors qu'est-ce qu'il a? Il a montré à Moshe Rabbeinu, parce que c'était impensable, il a fallu le montrer à Moshe Rabbeinu. Il a montré à Moshe Rabbeinu un homme avec un talit sur la tête, dit le Midrash, et qui prie. Et qu'est-ce qu'il dit dans sa prière? Les shloshes remidot. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, si les Bnei Israël fautent, alors il faut qu'ils désignent un shliach tzibur, c'est quelqu'un qui va diriger la prière, d'accord, et qui va dire les shloshes remidot. Et moi, dit Hachem, je pardonnerai. Et c'est pour ça qu'à Kippour, ce qu'on fait, c'est on raconte, on fait ce qu'Hachem a dit. Mais on met, au lieu de le dire une fois, on le dit 26 ou peu importe, on le dit sans arrêt. Toute la tfila, à part la tfila qui se fait comme tous les Yamim Tovim, comme tout, Yom Kippour c'est aussi un Yom Tov. Parce que à Yom Kippour, on doit être joyeux. Bon, c'est pas... Non, on doit être joyeux. Pourquoi? Parce que c'est un jour extraordinaire. C'est un jour où Hachem nous a pardonné et nous a donné tout ce qu'il fallait pour, malgré nos fautes, continuer de vivre, continuer de pouvoir se tenir devant Hachem. Alors, si on y regarde un peu plus près, sur ce redoublement du tétragramme, Hachem, Hachem, Kel, Rachum, Vechanun, etc. Si on regarde ce Hachem, Hachem, là, il y a donc deux façons d'exister, en fait. Deux façons de recevoir le flux de... un flux de vie, avant la faute et après la faute. Après la faute, c'est un nouveau processus, un nouveau chemin pour accéder à la vie. C'est-à-dire un chemin qui passe là où il y a déjà de la klala. Il passe là où il y a de la faute, là où il y a déjà de la klala. Un endroit où il n'y a pas de bracha. Hachem nous a donné un tel chemin. C'est, si vous voulez, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire qu'il y ait un tel chemin. Et c'est pour ça que la tshuva, et donc le bidouï, est dit en termes de tfila. Il a une forme de tfila. Ça veut dire la forme de Amida Lifnei Hashem avec ses manques. Nous permettre de prier, c'est nous permettre de prier en état de manque. Se tenir devant Hashem en état de manque, en état de klala. C'est pas en état où j'ai besoin, je demande la bracha. Seulement la bracha. Non, je me tiens, si vous voulez, on est déjà dans la boue. On se tient dans la boue. Et on demande qu'Hachem, dans cet état-là, néanmoins qu'il nous permette qu'il accepte notre tshuva, donc, qui nous permettent de parler, qui nous permettent de supplier, qui nous permettent de prier. Si vous voulez, il y a quelque chose un peu surprenant, si on est un petit peu regardant. C'est quoi ces trucs? quand les Bnei Israël fautent, Hachem dit, voilà ce qu'il faut faire. Et ça va marcher. On dirait que c'est un moulin à prière. C'est surprenant, non? De dire, voilà ce qu'il faut faire quand vous avez fauté, vous faites comme ça et ça va marcher. Et on a vraiment l'air de faire ça, nous. D'accord? On n'est pas l'avdil et l'effab d'alot, mais on n'est pas là avec des trucs. Mais si quelqu'un nous entend, qu'il ne soit pas Hachem. Ouais. Hachem, lui, nous entend avec bienveillance. Mais si quelqu'un nous entend, qu'est-ce qu'ils font, ces gens? Pendant 24 heures, ils répètent 26 fois Hachem, Hachem, Kel, Rahum, Befanoun, etc. Comme on ne peut pas ne répéter que ça, alors on l'a emballé, en quelque sorte. On a mis des slichot, des poèmes extraordinaires, etc., de la beauté, pour dire cela de façon avec de la force, parce que sinon on n'arriverait pas à le répéter. On ne sait pas faire ça, nous. Répéter comme ça, machinalement, hein, comme un moulin à prière. Nous, on veut que ça vive, en fait. Et d'abord, pour ça, il y a les plus grands poètes qui ont composé, que ce soit Rabbi Yehuda Halevi, Gavirol, tous les grands poètes ont composé les sérotes. C'est-à-dire des textes qui demandent le pardon. On dit une chose, une drôle chose, juste un instant. On dit Slach lanu avinu ki chatanu. Pardonne-nous, Hachem, car nous avons fauté. Ça veut dire, puisqu'on a fauté, alors il faut que tu nous pardonnes. D'accord. C'est pas nous avons fauté, pardonne-nous. Pardonne-nous, car nous avons fauté. C'est-à-dire, on s'est mis en état de pouvoir te demander pardon. Parce qu'on a fauté. Donc, on dit dans le... Ah, vous vouliez dire quelque chose, Claire?
Oui. Tout à l'heure, vous disiez que Yom Kippour, il fallait être dans la joie.
Oui, oui.
Parce que c'est
énorme ce qui est le cadeau qui nous est fait, là.
C'était à Tisha B'Av. Mais donc, de toute façon, le pardon, il est vraiment à transmettre à la Mila. Est-ce que tout Yom Kippour, c'est un immense pardon?
Oui.
Ou c'est un pardon qui va crescendo, ou réellement le pardon est accordé à la fin de Yom Kippour?
Dans la Gemara, il y a une opinion particulière de Rabbi qui dit, ça se dit en la chaîne de la Gemara, Itsumo shel yom et mechaper. Ça veut dire l'essence du jour de Kippour. C'est ça qui fait la Kapara. Donc lui, il pense, celui qui pense comme ça, il pense que même si on ne fait pas tshuva, Yom Kippour efface les fautes. Alors je vous rassure, la halakha n'est pas comme ça, il faut faire tchouba. Mais, si vous voulez, le fait qu'il y ait une pensée comme ça, bon, ça montre jusqu'où va Kippour, quoi, finalement. D'accord, on n'est pas. Dans la halakha, on ne fait pas comme ça. Mais si lui il pense comme ça, si Rabbi il pense comme ça, hein, c'est que d'une certaine manière, ça doit bien être comme ça. Simplement, on ne peut pas dire aux gens, vous avez fauté, bon. Tous les Yom Kippour, on efface et puis continuer à faire d'autres. On va demander aux gens de faire tshuva. La Torah demande, enfin, c'est ça la Torah, la halakha. Mais Donc ça veut dire que, en réalité, dès qu'on a demandé, c'est fait. Simplement, peut-être qu'on n'a pas bien demandé. Pourquoi on répète ? Parce qu'on... D'une certaine manière, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et ça ne durait pas toute la journée au temps du Beit HaMikdash. Parce que le Kohen Gadol, il faisait son avoda, et quand il avait terminé, il sortait, et on faisait une fête. D'accord ? On chante Maré Kohen. D'accord ? Et c'était une fête, et toute la populace suivait le Kohen Gadol dans une explosion de joie. Ça devait se faire dans l'après-midi, quelque chose comme ça. Ça n'allait pas jusqu'à la nuit. Mais comme nous, Yom Kippour, et bien jusqu'à la nuit, il a jeûné aussi, probablement quand même, mais c'était la fête. Quoi. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient reçu l'assurance qu'ils avaient été pardonnés. Alors, on essaie jusqu'à la dernière minute de... Peut-être j'ai pas bien fait, peut-être, etc. Peut-être j'ai pas été sincère et tout. Puisque je dois faire tchouva, alors on le répète après avoir fait tchouva. Donc on fait. Mais si vous voulez, aujourd'hui le vidouille est un vidouille personnel. C'est-à-dire, c'est chacun pour soi. C'est un vidouille dans lequel on fait attention à ce que les gens n'entendent pas ce sur quoi on fait vidouille. Mais comme c'est pas possible, parce que si je fais mon vidouille et mon voisin il va entendre tout ce que j'ai fait de travers, et c'est pas le but de l'exercice, alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a décidé de faire une liste de toutes les bêtises qu'on peut faire, une liste alphabétique. Et alors tout le monde dit la même liste, Hachamnu, Bagadnu, Gazalnu, Dibarnu Dafi, etc., selon l'alphabet. Et chacun, au moment où il le dit, il est censé en lui-même dire oui, ça me concerne, ça me concerne pas, etc. D'accord. Et tout le monde n'a pas tué son voisin, je veux dire, il y a des exceptions. Je veux dire, Donc finalement, on le dit tous ensemble parce qu'on ne peut pas le dire en privé, mais à la limite, si chacun il avait sa cabine où il pouvait le dire, il devrait le dire, il devrait l'exprimer.
Donc en fait, la joie, elle doit en fait nous tenir depuis Kol Nidre jusqu'à...
Oui, enfin, la vérité, c'est que justement, on a un mois d'Eloul, on a Aseret Yemei Teshuva, pour qu'en réalité, la Teshuva, on l'ait faite avant. D'accord ? Il ne s'agit pas d'attendre Kippour. On a le droit de faire Teshuva avant. C'est-à-dire, on doit faire Teshuva chaque jour. La Gemara, elle dit, si tu rencontres un Talmid Racham, et tu vois qu'il fait une faute, le lendemain, tu ne peux pas lui en tenir rigueur, parce que c'est sûr que le soir, il a fait un vidouille et il a fait Teshuva. Et ça, c'est très important. Il faut croire, si vous voulez, si on peut parler comme ça. Faire confiance à Hachem, ma Teshuva, si je la fais vraiment, il n'y a plus de trace de la faute. Parce que ça fait partie du Yetzer Hara de nous rendre, nous obliger, enfin, nous inciter à nous balader avec une tête de gens qui... Avec de la culpabilité. Mais quand on a fait Teshuva, on n'a plus de culpabilité à avoir.
Mais on ne sait pas si Hachem nous a pardonné.
Pardon ?
Le problème, c'est qu'on ne sait pas si Hachem nous a pardonné finalement.
Mais si, il nous a pardonné. C'est une promesse qu'il a faite. Si je fais Teshuva réellement, je fais Teshuva réellement, alors, c'est sûr qu'il me pardonne. Je vous ai dit, Hachem, une des midotes d'Hachem, c'est Shomea Tfila, il écoute la prière. Cette prière de Vidou, il l'écoute aussi. Bien sûr qu'il l'écoute. Bien sûr.
C'est-à-dire, en fait, on n'a pas le choix, c'est
le jour où on lui dit pardonne. Il nous a dit, je pardonne. Il a dit à Moshe Rabbeinu, Il a dit, à l'échelle du klal, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu mets un shliach tzibour et... Donc c'est le Kohen Gadol et il va dire pour Hachem Hachem quel raconte, enfin, pour tout le monde. Mais aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de Beit HaMikdash, on n'a pas de Kohen Gadol, donc on doit faire le travail tout seul. Chacun doit faire le travail pour soi. On est tous notre propre Kohen Gadol, si vous voulez. Alors, on peut faire pour soi. Il faut le faire pour soi. C'est... Qu'est-ce qu'il avait ?
Quelle visibilité il avait sur
les choses de c'est ce qu'Hachem a dit à Moshe Rabbeinu. Tu mets un shliach tzibour qui va parler au nom du tzibour.
Quelle connaissance ?
Il n'a pas besoin de connaître. Hachem a dit, si les gens ont fauté, tu mets un shliach tzibour et il va faire la tshuva et il va faire ce qu'il faut. Il va dire cette prière dont Hachem a dit que ça marchait, et ça marchera pour le clan. Mais bon, on n'est plus dans... Enfin, tout ce qui se passait avant au Beit HaMikdash, où... Alors, on peut aussi dire que tout ça, ça se faisait, parce que on pourrait dire que par rapport à cela, le clan Israël était comme en enfance, quoi. Comme un enfant. Un enfant, on fait les choses pour lui. Mais à un certain moment, on devient un adulte. Alors c'est terminé, il faut que tu le fasses tout seul. Alors, ça a l'air des... C'est comme si on disait, alors, le passage de l'enfance du clan Israël, d'une certaine manière, au passage à l'âge adulte, il a été très très douloureux. Bon, ce qui a nécessité la disparition du Beit HaMikdash. Il a fallu une destruction du Beit HaMikdash, des tas de morts. Bon, parce que quand les Romains ils ont détruit le Beit HaMikdash, même déjà chez les Perses aussi, les Babyloniens, il y avait des milliers de morts. Une partie du clan Israël a disparu. Alors c'est très douloureux, ça a été très douloureux. Peut-être que psychologiquement, le passage pour certaines gens, peut-être chez tout le monde, je ne sais pas, le passage de l'enfance à l'âge adulte, c'est un déchirement, c'est une autre chose. Il y a des gens qui ont du mal à passer, à devenir adultes. Il y a certains qui restent enfants en réalité toute leur vie. Il y a des gens qui ne se pensent pas autrement qu'assister. Quelque part, ben, si ce n'est pas... Si ce n'est pas mes parents, ben alors ça sera mon conjoint ou ma conjointe, ou mes enfants, ou le patron, etc. On peut voir cela, si vous voulez, en termes d'esclavage, quoi. Quelque part, quelqu'un qui choisit d'être, qui se vendrait comme esclave. Celui qui se vend comme esclave, il n'est plus responsable. Hein. Lui, il n'a pas à craindre le chômage. Durant la période où il est esclave, son patron, enfin son propriétaire, va le nourrir, lui, il va nourrir toute la famille aussi. Nourri, logé, blanchi, et il travaille. Finalement, il ne fait pas un travail tellement différent du travail de quelqu'un d'autre, c'est qu'il n'est pas le maître de son travail, mais c'est ça surtout. Donc, il y a des gens qui ont du mal à passer au stade adulte. Et le clan Israël, bon, il a souffert. Et certaines fois, il y a des gens qui reproduisent cette situation. Il y a un mouvement, par exemple, dans la Chassidoute, qui dit que le tzaddik, c'est-à-dire le rebbe, il fait les choses pour les... Enfin, lui, il fait les choses. Lui, il sait. Aujourd'hui, c'est un peu atténué, mais... Au départ, c'est comme ça. Lui, il sait ce qu'il faut faire, il fait ce qu'il faut, nous, on vient, on est là. On mange à sa table, on vient se réjouir avec lui. Mais lui, il sait ce qu'il faut, et grâce à lui, les choses se font.
Ce qui se passe,
c'est que Le Gaon de Vilna, par exemple, lui dit que, bon, tu dois considérer que tu es pardonné, mais pour savoir que tu es pardonné, c'est est-ce que tu ne vas pas retomber dans ce... Tu ne refais pas la faute dans l'année qui vient. Parce que ça voudra dire que ta résolution était vraiment une résolution suffisamment sérieuse, tu as pu la tenir tout au long de l'année. S'il a fait tshuva, ce que l'on dit faire tshuva, et il a dit c'est je serai midot, Hachem pardonne.
D'accord, donc c'est pas une question de mérite des uns par rapport aux autres qui ont
fait. Les mérites, ils vont peut-être se marquer dans la façon dont on va faire tshuva. C'est évident que si on sait. C'est pas pour rien qu'il y a un mois d'Eloul, quoi. C'est. Il y a moins d'Eloul qui est là pour la préparation. Puis après, il y a encore 10 jours de... 10 jours, le fameux 10 jours de pénitence, comme on dit. Il y a encore 10 jours jusqu'à Kippour. C'est tout ça. On dit dans la tfila. Tfila ou tzedaka. Tshuva, ma'avirin et troa gzera. La tshuva, la prière et la tzedaka, ça peut effacer les mauvais décrets. Il y a la tshuva dedans. Dans la prière, quand on fait une vous souvenez comment c'est, l'amida de Kippour. C'est une amida normale de Yom Tov avec l'interpellation de Yom Kippour. Et à la fin, il y a vidouille. À la fin, on continue et on fait le vidouille. Et dans le texte d'introduction, nous disons « She'en anu azepanim ksheoref » Nous ne sommes pas impudents et la nuque roide à dire « Devant toi, Hachem, Hachem, Elokeinu velokavotenu, notre Dieu, le Dieu de nos ancêtres, tzadikim anachnu velochatanu. Nous n'avons pas l'impudence de dire devant toi que nous n'avons pas fauté. Aval anachnu vavotenu chatanu. Non. Nous et nos ancêtres aussi, ils ont fauté. Alors, c'est un peu étonnant. D'accord? C'est de nouveau la même chose. C'est quoi? C'est que ça ouvre quel droit en quelque sorte? On demande quelque chose parce que on reconnaît qu'on a fauté. Donc, il n'y a plus qu'on ne reconnaisse pas. D'accord? On n'a pas l'impudence de dire qu'on n'a pas fauté. Mais on reconnaît qu'on a fauté. Et donc ça doit nous ouvrir des droits, quoi. Quelque part, c'est ça qui va ouvrir le. Comme on a vu à Vus, Slach lanu, ki chatanu. Tu vois bien, on a fait ce qu'il fallait pour que tu nous pardonnes. On a fauté. C'est ça. Le fait, la raison pour laquelle on peut demander le pardon, c'est parce qu'on se tient devant toi, Hachem, avec notre manque. C'est ça, on se tient devant toi dans l'état de manque, c'est ça. C'est ça la raison pour laquelle on peut demander. C'est là la racine de la prière. C'est ça la puissance de notre demande de pardon, elle vient de cela, de ce que nous ne sommes pas impudents. Non, on se tient devant toi. On peut dire, Voilà. On se tient devant toi et on reconnaît qu'on a fauté. On est en état de manque. On est là avec nos manques, et on se tient devant toi. On attend tout de toi. La demande qu'Hachem pardonne, on peut dire, c'est presque, on voit bien que ça fait partie d'une demande, on demande ce dont nous avons besoin, puisque Slach Lanu est bien dans la Amida de tous les jours. Mais la prière spécifique de la Tshuva, c'est autre chose, c'est le vidouille. Et la racine, c'est on se tient devant Hachem avec nos manques. C'est comme dit Rambam, Zehoui Karoshel Vidoui. On se tient devant Hachem et on reconnaît qu'on a fauté. Même il ajoute dans le livre des mitzvot qu'il a écrit, après avoir parlé de cette midat vidoui, il dit Veyarich amahamar vivakesh amechila. C'est-à-dire, on voit très bien que la demande de pardon, elle ne fait pas partie de la tshuva. C'est un ajout, Yarich. Ensuite, il va continuer. Mais c'est pas dans les, ça fait pas partie du vidouille. Dans le vidouille, on ne demande rien. Non, ça suffit de se tenir devant Hachem avec nos manques. Ça veut dire que toutes les prières que les Anshei Knesset HaGdola ont instaurées, elles sont, c'est des brachot. Les 18 bénédictions, 19, l'Amida, c'est des brachot, Baruch, Ata, Hashem, et quelque chose.
Alors, le bidou, en aucun cas, on le fait assis.
Pardon, le?
Le bidou, en aucun cas, on le fait assis.
Non, enfin, en aucun cas, si quelqu'un est vraiment... Non, ça c'est le tachanoun, ça c'est autre chose. Ça c'est les supplications. Non, le vidouille, effectivement, c'est se tenir debout. Maintenant, je ne veux pas dire que quelqu'un, si vous voulez, se tenir debout, c'est pas... Normalement, quand on peut, alors on doit mettre le corps en accord avec le se tenir debout. Mais le se tenir debout devant Hachem, il est dans la tête. Parce que celui qui est debout, mais qui pense qu'il est au stade ou il est à le concert... Il n'est pas l'Ifne Hachem. Donc ça dépend de ce qui se passe dans sa tête. Donc quelqu'un peut très bien, il est évident que quelqu'un, un vieillard ou quelqu'un qui a des difficultés à se tenir debout, même au point de ne pas pouvoir, parce qu'en fait, il suffirait de se tenir debout juste pour le vidouille, pour l'essentiel du vidouille, après tu peux t'asseoir. C'est plus l'essentiel du vidouille. Ça veut dire à la limite juste pour dire le commencement Ana Hashem Chatati Lefanecha Vasiti Karvekar et je regrette et j'ai honte et je ne ferai plus. Puis après tu te rassois. Si quelqu'un ne peut pas faire même ça, bon, voilà, il le fait dans sa tête.
Et les supplications, alors c'est quoi la différence avec.
C'est autre chose, ça c'est des demandes de vie, et on supplie pour. On fait ça tous les jours.
Il me semblait qu'il y avait le bidouille.
Alors, c'est pas dedans exactement, mais dans le Moussar Sfard et Sfarad, il y a un bidouille tous les jours. Et après, il y a les supplications. Il y a d'abord un bidouille tous les jours. Avec Hachem Hachem, etc., tous les jours. C'est pas dans le Moussar Ashkenaz. En réalité, je vous ai dit, si je ne l'ai pas dit, j'aurais dû, mais je pense l'avoir dit, que dans la prière quotidienne, on avait parlé de la kavana. Je vous ai dit, on a une intention. Alors, les intentions très sophistiquées, ce n'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Mais par contre, il y a une kavana qui est fondamentale, c'est justement la conscience que je suis en train de... Je me tiens devant Hachem pour prier. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut faire d'autre que de se dire dans sa tête, je me tiens devant Hachem. L'homme, il est fait, si vous voulez, malheureusement, c'est possible, on est capable de le dire à toute vitesse, c'est le même... Même si on décide que avant toute Amida, je vais passer dans ma tête, je ne peux pas parler, mais je vais le dire dans ma tête, voilà, je me tiens devant Hachem. Mais bon, on peut aussi le dire très rapidement, et ça passe comme le reste. Voilà. Il y a eu une tentative qui est reprise dans le monde Sfarad et Sfarad, Hasidim. Avant de faire une mitzvah, ils disent Yehi Ratzon, etc. Dans lequel ils disent, voilà, je me prépare, etc., je vais faire la mitzvah, etc. Alors bon, ça a fait beaucoup de discussions pour savoir s'il fallait faire ces choses-là. Mais il se trouve qu'il y a des gens qui le disent, mais ils le disent comme ça fait partie du reste. Donc il ne se prépare pas plus avec ce Hiratson que les gens qui ne le disent pas. Mais il y a des gens qui disent bien, mais il y a aussi des gens... Des fois, dans la langue, je sais que ma mère, elle disait au nom de son père, que son père, quand il lui demandait, il ne demandait pas « Est-ce que tu as prié ?» Il demandait... Quand il demandait, il lui disait, est-ce que tu t'es déjà tenu debout pour la prière? C'était, est-ce que tu t'es tenu debout? Et c'était dans la phrase, c'était pas du tout, est-ce que tu as prié, quoi. C'est possible. Chacun doit, à la question que tu poses, je pense que chacun doit inventer quelque chose qui lui permette de se souvenir qu'il est debout devant Hachem. Alors, ou bien en le disant, ou bien, je sais pas, peut-être qu'il faut prendre une respiration qui représente la conscience de Hachem, ou bien on pourrait aussi taper les talons comme faisaient les gens dans l'ancien temps, quand les gens saluaient, ils tapaient les talons. Peut-être qu'il faut... Puisqu'on doit joindre les pieds, on peut aussi taper les talons, comme ça. Chacun fait ce qu'il peut pour se mettre en condition.
De fait, dans toute prière que l'on adresse à Hachem, il y a ce sens. Enfin, par exemple, quand on fait le bench, ou quelque chose comme ça.
Le bench, c'est pas une. Bon, il faut. Il faut être conscient de ce qu'on est en train de faire, mais là, on n'est pas. C'est pas marqué que t'es Omed Lifne Hachem, là-bas, dans le Birkat Amazon. Avant, c'était marqué dans certains sidourés, mais dans certaines synagogues, dans le pupitre de l'officiant, c'était marqué Da Lifne Miata Omed. C'est-à-dire, sache devant qui tu te tiens. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'étais plus jeune, c'était marqué seulement Da Lifne Miata Omed. Sache devant qui tu te tiens. Maintenant, c'est marqué Da l'ifnemia ta omed, l'ifnemia kadosh borou, comme si il fallait le dire. Maintenant. Avant, on n'avait pas besoin de finir la phrase. Mais maintenant, peut-être que ça fait plus de lettres, ça fait plus joli, je ne sais pas. Mais en tout cas, maintenant, ils disent sache devant qui tu te tiens, tu te tiens devant. D'ailleurs, je crois que dans certains sidourim, dans le bloc, je crois que ça comme sur la première phrase, la première page, c'est marqué Dalifner Miata Omed. D'accord, Rachel?
Oui.
pas un bloc, mais est-ce que le jour lâché, il dit la même chose? Non, il n'y a pas ça. Donc c'est un processus de bracha, dans toutes les tfilotes, ça joue avec des brachot. Parce que comme la prière s'adresse à la source de la bracha, elle s'adresse à Baruch Ata Hashem. Donc on a vu, c'est un processus de bracha, un désir de combler les manques. Et il y a un deuxième chemin, qui est lorsque quelqu'un vient, arrive à un certain degré de perfection en fait. Alors, il entre dans le processus de bénédiction, mais sans le manque, en quelque sorte. C'est marqué dans le pasouk, « Ubaou alecha kol abrachot ha'ele v'isigucha ». Elles viendront sur toi toutes ces bénédictions et elles t'atteindront. C'est un type de bracha du style Yishma Chacham Yosif Od Lekar. Celui qui est sage, il va encore rechercher la sagesse. Et dans la Torah, il y a aussi ces deux processus, bracha et supplément en quelque sorte. Une volonté de un désir d'accéder aux paroles de la Torah, et puis, quand on est déjà plein de chokhmah, d'avoir encore plus, quoi. Si quelqu'un a fait des efforts dans son étude de la Torah, alors, quelque part, la Torah elle-même va travailler pour lui. Hazal dit, quelqu'un fait un effort dans un sujet, il étudie les efforts dans les lois du Shabbat, la Torah va de son côté en quelque sorte travailler pour lui sur d'autres lois, sur les lois de la tshuva, disons. Et pourquoi? Parce qu'il s'est tordu la bouche, c'est-à-dire il a parlé, il s'est rempli la bouche avec des mots de Torah, il a étudié la Torah de toutes ses forces. Et du coup, la Torah elle-même, elle devient le shliach tzibur en quelque sorte. L'envoyé de l'homme qui va demander à Akadosh Baruch Hu d'avoir la possibilité de se dévoiler à un autre endroit pour cette personne. C'est-à-dire en fait un désir de remplir ses manques et de faire en sorte qu'on ait la vie de la Torah, qu'il y ait un flux plus grand encore de Torah, qui va au-delà des efforts qu'on a faits dans un certain domaine. On travaille dans un certain domaine et sans qu'on l'ait travaillé explicitement, ça a travaillé pour nous dans un autre domaine. Sans qu'on s'en soit rendu compte, on a aussi avancé dans un autre domaine. On comprendra mieux dans un autre domaine aussi. Ça fait partie du espèce de c'est ça la relation de avec Hachem, une relation dans laquelle on est plein, mais je demande encore alors. Du coup, alors, elle va le faire, la Torah va le faire pour moi. Voilà, on va s'arrêter là.